d'Europe 1.
Punchline, Laurence Ferrari.
Et on se retrouve dans Punchline sur Europe 1 avec notre invité Olivier Dussopt. Bonsoir.
Bonsoir.
Ministre délégué aux comptes publics, merci d'être avec nous. On va parler du budget 2022. Agnès Verdier-Molinier, bonsoir.
Bonsoir.
Économiste, directrice de l'IFRE, Institut de la recherche et des administrations et...
des politiques publiques.
Politiques publiques, merci beaucoup. Emmanuel Dutheil est avec nous aussi. Bonsoir, chef.
Bonsoir.
Du service économique d'Europe 1. Alors, ce projet de finances 2022 a été présenté ce matin. On va écouter les critiques émises par l'opposition qui estime que c'est une gabegie. Mais d'abord, on va écouter le ministre Bruno Le Maire qui rappelle la fin affichée du quoi qu'il en coûte et le fait qu'il n'a pas de leçons à recevoir de l'opposition. On l'écoute.
Nous avons dépensé l'argent public à bon escient pour vous protéger. Pour protéger l'emploi, pour protéger des compétences, pour protéger des entreprises. Le quoi qu'il en coûte, décidé par le président de la République, a été une politique réfléchie, une politique efficace et une politique nécessaire. Et nous n'avons pas de leçons à recevoir de ceux qui, face à la crise précédente, deux fois moins importante, ont fait le choix de l'augmentation des impôts, de creuser la dette de 10 points de plus que nous. Tout ça pourquoi ? Pour avoir zéro de croissance, 10% de taux de chômage et un nombre de faillites deux fois plus élevé que celui que nous avons.
Olivier Dussopt, on sent sur la défensive le gouvernement en présentant ce budget. Vous répondez d'emblée aux critiques. Encore une fois.
D'abord, c'est le rôle du gouvernement de répondre aux critiques. Mmh. Et visiblement, c'est la spécialité de l'opposition que de se répandre en critiques. Nous présentons un budget...
Oui, un peu depuis que la politique existe, oui, mais bon.
Peut-être, mais peut-être plus particulièrement marqué encore. Nous défendons un budget qui a un double objectif. D'abord, tenir des engagements. Mm-hmm. Tenir des engagements pluriannuels. Nous avons pris un certain nombre de lois de programmation sur les fonctions régaliennes, sur la défense, sur la recherche ou encore sur la justice. Et ce sont des engagements que nous tenons. Nous tenons aussi des engagements pris par le président de la République devant les Français. Et nous tirons les conséquences de la crise par certaines mesures. Puis il y a un deuxième objectif à ce projet de loi. C'est une forme de normalisation. Nous avons beaucoup dépensé pendant la crise. C'est la position du quoi qu'il en coûte. Ce sont 70 milliards de dépenses exceptionnelles en 2020, mm-hmm. autant en 2021, pour aider les entreprises, aider les Français, combattre le virus, avec des dépenses notamment dans le secteur médical. Et aujourd'hui, nous revenons à quelque chose de plus soutenable. La dépense publique va baisser l'année prochaine en volume, mm-hmm. puisque le plan de relance continue à être mis en œuvre, bien évidemment. Mais les aides d'urgence s'arrêtent puisque nous sortons de la crise économique.
Agnès Verdier-Molinier, les dépenses s'envolent ? Les dépenses de l'État s'envolent ou pas ?
Bah écoutez, il faut regarder hors plan d'urgence et de relance parce qu'on était quand même dans une période spéciale et on ne peut pas le nier. Mais nous, ça fait beaucoup d'années qu'on suit ces questions à la Fondation IFRAP et on voit toujours déraper la dépense publique de 17, 20 milliards d'euros par an, bon an, mal an. D'ailleurs, quel que soit... l'étiquette hein, du gouvernement au pouvoir. Là, ce qui nous inquiète, c'est qu'on est plutôt dans les 28 milliards de dérapage en dépenses courantes, en moyenne, par an. Donc ça veut dire qu'on a beaucoup augmenté la dépense publique, qu'il y a une sorte d'effet cliqué, c'est-à-dire que dans ce qu'on croyait être uniquement des dépenses qui arrivaient à cause de la crise, ben finalement, il y a une partie qui est pérennisée. C'est ce que dit aussi le Haut Conseil des finances publiques. Il le disait déjà dans un mmh. avis antérieur. Et ça, c'est un problème parce que finalement, les baisses d'impôts dont parle beaucoup le gouvernement ces derniers jours, mmh. eh bien, elles sont financées en gros par la dette. Et ça, ça m'inquiète beaucoup parce que finalement, on reste le pays le plus taxé de la zone euro. On reste le pays qui dépense le plus de la zone euro. Et en plus, quand on fait des baisses d'impôts qui sont nécessaires, eh bien, finalement, elles ne sont pas vraiment gagées. Et je pense qu'elles ne sont pas vraiment pérennes. Elles sont extrêmement fragiles. Alors que si on regarde ce qui nous sépare de nos voisins, eh bien, il faudrait encore baisser les impôts d'environ 60-70 milliards dans les prochaines années. C'est énorme hein, l'écart qu'on a avec nos voisins très proches de la même zone monétaire. Donc là, il y a vraiment une divergence entre la France et les pays du nord de l'Europe, un déclassement potentiel de la France. Et donc, il faut faire très, très attention à ce qu'on fait en ce moment. Et je trouve que le chéquier est beaucoup trop ouvert et qu'il y a trop de promesses.
On a fait les comptes, effectivement. Voilà. Et on les milliards ont volé.
On y reviendra, mais cette valse des milliards, alors qu'on dit, vous avez... cité Bruno Le Maire, il dit que le quoi qu'il en coûte est arrêté. Moi, je pense qu'il n'est pas tellement arrêté. J'ai peur qu'il continue jusqu'au premier tour de l'élection présidentielle. Et ça, c'est une préoccupation.
Voilà. Je vous donne la parole dans un instant pour répondre, monsieur le ministre. Juste Emmanuel Dutheil, les Français voient effectivement les milliards valser dans le studio. Concrètement, ça veut dire quoi pour eux ?
Bon, ça veut dire qu'ils sont plutôt contents sur le papier, puisque c'est de la dépense qui peut plutôt les servir. Là, même si on va être sur une dépense plutôt en 2021, mais par exemple, le chèque énergie, je pense qu'il faut être quand même conscient de 100 euros pour 5,8 millions de foyers, c'est 580 millions d'euros. Je peux dire qu'en période normale, et là, je pense que le ministre le sait mieux que moi, quand il faut sortir 580 millions d'euros des caisses, ça prend des semaines, il y a 28 arbitrages, et on va chercher toutes les économies possibles pour essayer de compenser. Là, à cause de la période, on essaye effectivement de faire des chèques. Après, il y a peut-être aussi quand même un point à mettre en avant. On est sur un budget de campagne électorale. Et vous regardez le dernier budget de François Hollande ou le dernier budget de Nicolas Sarkozy. Bon, ben, ils avaient aussi ouvert un peu les vannes. Alors, elles étaient moins ouvertes parce qu'il n'y avait pas eu le quoi qu'il en coûte avant. Mais il y a aussi ça qui joue. C'est-à-dire que moi, ce qui m'inquiète plus, c'est les trous dans la raquette qui ne sont pas mesurables pour le moment. C'est-à-dire qu'il va y avoir un plan jeune. D'accord, mais comment, quelles sont les mesures, combien il va coûter? Il va y avoir un plan d'investissement, on va dessiner les investissements de la France pour 2030. Pareil, il va y avoir quelques dépenses qui vont être dès l'année prochaine. Qu'est-ce qu'on fait? Puis on a parlé quand même de plus d'un milliard d'euros pour Marseille. Moi j'ai regardé le budget, monsieur le ministre, je ne sais pas où est la ligne, je ne l'ai pas trouvé.
Monsieur le ministre, à la fois sur le fait que les dépenses elles sont financées par la dette, et puis après sur ces questions précises.
Je réponds à l'envers. D'abord dire à Emmanuel Dutheil qu'il ne faut pas confondre les engagements qui sont pris pour une année et les engagements qui sont pris sur plusieurs années. Typiquement, pour Marseille, c'est un plan qui est sur plusieurs années. Nous savons tous que les travaux à réaliser prendront longtemps, qu'il sera étalé dans le temps. Et nous savons à la fois que sur les budgets des différents ministères, nous pouvons répondre aux besoins de Marseille à brève échéance. Et par ailleurs, il y a quelques objets qui font encore l'objet de discussions. Mais au-delà de ce qui a été dit là, il y a des dépenses qui sont annoncées aujourd'hui, qui ne portent pas sur 2022, elles portent sur 2021. C'est le cas du chèque énergie. Et si nous pouvons le faire, c'est pour une raison en particulier. Nous avions prévu des mesures d'urgence, notamment d'aide aux entreprises, d'aide aux ménages les plus défavorisés, extrêmement importantes, parce que nous attendions une crise économique plus forte encore que celle que nous avons connue. Et donc ces budgets ont été moins consommés et on va pouvoir les redéployer sans rien obérer des capacités en 2022. Mais au-delà, la question qui se pose aujourd'hui, c'est comment on fait après avoir répondu massivement à l'économie. Et je crois que tout le monde s'accorde à dire que le soutien que nous avons apporté à l'économie est efficace. Cela a permis de préserver les entreprises. Ça a permis aux entreprises, par l'activité partielle, de garder des compétences, de ne pas licencier. Et c'est certainement une explication, c'est une forme d'investissement, c'est l'explication à la reprise très forte de l'économie française, création d'emplois, croissance à plus de 6% et capacité à rebondir. La question, c'est comment est-ce qu'on amorce ce virage de la fin du quoi qu'il en coûte et la normalisation. Nous avons un plan de relance qui a été voté, qui va être mis en œuvre, qui est utile et qui s'engage au rythme que nous souhaitons. Mais surtout le reste. Tout à l'heure, Agnès Verdier-Molinier disait qu'il faut regarder les dépenses de l'État, les dépenses publiques, en dehors des aides d'urgence et du plan de relance, parce que ça nous permet de réfléchir sur un périmètre constant. Lorsque vous regardez le budget que nous avons présenté aujourd'hui, l'évolution de la dépense publique hors relance et hors urgence, entre 2021 et 2022, en volume, pour reprendre des termes que vous connaissez bien, elle n'augmente que de 0,8%. Mmh. C'est très peu. C'est autant que les augmentations de 2017 à 2019 inclus. Et ce rythme d'augmentation très modéré sur les dépenses qu'on va qualifier d'ordinaires, c'est ce qui nous a permis, entre 2017 et 2019, d'atteindre pour la première fois, trois années consécutivement, l'objectif de 3% de déficit. C'est ce qui nous a permis de diminuer le poids de la dépense publique et de baisser les prélèvements obligatoires. Et je termine par là. Les prélèvements obligatoires, c'est à la fois les cotisations, les impôts, le prélèvement sur la richesse produite. Nous serons à 43,5% l'année prochaine. C'est très haut en Europe. Par contre, c'est le plus bas que connaisse la France depuis 2011. Ça signifie que les baisses d'impôts que nous avons votées ont effacé les chocs fiscaux de 2010 et de 2012.
La réponse d'Agnès Verdier-Molinier, juste après la pause. Une toute petite pause, vous avez la parole, vous répondez au ministre des Comptes publics. A tout de suite sur Europe 1.
Punchline sur Europe 1, Laurence Ferrari.
Et on débat ce soir du budget 2022 avec le ministre délégué aux comptes publics, Olivier Dussopt, avec Agnès Verdier-Molinier et Emmanuel Dutheil, chef du service économique d'Europe 1. On va voir que le Haut Conseil des finances publiques fustige ce budget, refuse de se prononcer car il le juge incomplet. Victor Chabert, expliquez-nous pourquoi.
Eh bien, Laurence, il lui reproche un budget incomplet. Il se dit incapable de rendre un avis pleinement éclairé car des mesures d'ampleur prévues par le gouvernement n'ont pas été intégrées au document qui lui a été transmis. Il s'agit notamment du plan d'investissement baptisé France 2030 ou encore du revenu d'engagement à destination des jeunes de 16 à 25 ans en situation précaire. Cela pourrait représenter plusieurs milliards supplémentaires. Le gouvernement planche toujours dessus. À ce stade, le Haut Conseil déclare aussi être dans l'incapacité de juger du réalisme de la prévision du déficit qui doit être ramené de 8,4% à 4,8% en 2022. Ce n'est pas la première fois qu'il est critique sur un budget. Précédemment, c'était en 2016, sous François Hollande. C'était aussi le dernier budget du quinquennat. Il l'avait qualifié d'insincère. Cette formule n'apparaît pas dans son dernier avis, mais Bruno Le Maire veut tout de même balayer l'idée. Il a martelé la sincérité totale de ce dernier projet de loi de finances et la transparence de son ministère.
Merci Victor Chabert. Je vous vois secouer la tête, Olivier Dussopt, en entendant ce que dit le Haut Conseil des Finances publiques. Qu'est-ce que vous répondez ?
En entendant ce que dit le Haut Conseil, en entendant ce que dit votre collègue journaliste.
Alors ?
D'abord, le Conseil a rendu un avis, je l'ai reçu ce matin, comme c'est la tradition, et il nous en avait fait part hier. Le Haut Conseil, et je viendrai sur le plan d'investissement, considère que notre prévision de croissance est à la fois plausible et prudente, ce qui est une caractéristique de tous les avis rendus par le Conseil sur nos prévisions budgétaires. Il considère aussi que les dépenses que nous avons inscrites dans le budget sont estimées de manière réaliste. Et il considère que les hypothèses de croissance et les hypothèses macroéconomiques sont tout à fait acceptables. Le Haut Conseil a dit, il est vrai, regretter de ne pas pouvoir examiner en première saisie le plan d'investissement et les questions relatives aux mesures autour de la jeunesse. Nous avons toujours dit, et c'est en cela que nous disons que ce budget est sincère, nous avons toujours dit que ces deux éléments viendraient après. Que nous y travaillons, lorsqu'on réfléchit à un plan d'investissement pour la France et l'économie de 2030, ça nécessite quelques consultations, qui plus est quand l'économie bouge aussi vite qu'actuellement. Et nous aurons l'occasion de faire deux choses que nous avons, avec Bruno Le Maire, dit devant l'Assemblée nationale et le Sénat aujourd'hui. La première chose, c'est que ces éléments supplémentaires seront proposés par des amendements du gouvernement à l'Assemblée nationale en première lecture, c'est-à-dire au début du débat, sachant que le débat va commencer, il a commencé cet après-midi et qu'il se terminera le 20 décembre, donc ça laisse un petit peu de temps. Nous avons aussi dit une autre chose, c'est que nous saisirons le Haut Conseil des Finances publiques sur ce plan d'investissement et les mesures jeunes. Rien ne nous y oblige dans la loi, mais puisque le Haut Conseil a regretté de ne pouvoir les examiner, nous leur proposons de le faire et ainsi de compléter toute la vision sur un budget qui est absolument sincère et qui vise, comme je disais tout à l'heure, à tenir des engagements et à marquer cette normalisation des finances publiques.
Agnès Verdi-Molinier.
Le Haut Conseil des Finances publiques a surtout dit que ce budget est incomplet. Et ça, c'est quand même quelque chose de tout à fait nouveau. On a dit que les derniers budgets des précédents quinquennats étaient aussi un peu listés de dépenses supplémentaires. Mais là, c'est carrément différent. C'est-à-dire qu'on apporte un budget devant le Parlement, on le présente au Conseil des Finances publiques, mais on sait qu'il manque des milliards. Ce n'est pas du tout pareil. Présenter des milliards de dépenses supplémentaires par amendement, donc avoir des dépenses qui sont factuellement en chiffres fausses, dans le budget qui est présenté, que ça impacte le déficit potentiellement, ça impacte aussi potentiellement le niveau de dette. Donc, c'est normal, on est dans le brouillard. Et là, il y a une question de respect aussi de la représentation nationale.
Mais nous la respectons parfaitement.
Est-ce qu'il est logique d'arriver comme ça avec un budget en disant bah voilà, j'ai 5 ou 6 milliards, je ne sais pas comment on va les dépenser, mais alors il va falloir les ajouter.
C'est la méthode que nous n'avons pas retenue. Nous aurions pu inscrire une provision sans dire ce qu'il y avait derrière. Ça, c'était irrespectueux. Nous avons dit à l'Assemblée, dès le départ, qu'il manquerait le plan d'investissement, que nous le proposerions par amendement, en première lecture à l'Assemblée, parce que c'est la priorité de l'Assemblée par rapport au Sénat, sur les questions financières. Là où je suis d'accord avec vous, c'est qu'il n'y a aucune accusation ou aucun soupçon d'insincérité. L'insincérité, c'est quand on sous-estime les dépenses, c'est quand on inscrit des crédits pour payer une masse salariale et que la réalité est différente. C'était le cas du budget pour 2017.
D'autres éléments, monsieur par le ministre, si vous me permettez.
Par contre, je vais au bout. Nous sommes aujourd'hui dans une situation où le plan d'investissement va être annoncé, il va être calibré, il va être présenté au Parlement et il ne dégradera pas significativement le solde du budget. Sinon, nous aurions évidemment procédé
autrement. L'autre élément, c'est sur 2021. Il y a aussi un souci sur 2021. Vous nous dites, finalement, on a sous-estimé la croissance. Quand ça a été voté en loi de finances rectificative 2021, au printemps dernier, on savait déjà que l'INSEE tablait sur 6% de croissance.
Et nous l'avons intégré.
Et non, mais en gros, on a quand même voté un PLFR, une loi de finances rectificative, qui est quand même avec un niveau de croissance qui est inférieur à ce qu'on comptait avoir. Résultat, on emprunte plus d'argent.
Non.
Résultat, derrière, au lieu de le consacrer au désendettement et de dire bah, on a emprunté trop et non, donc on va se désendetter, on va baisser la dette.
Pardonnez-moi,
à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait ?
Vous dites quelque chose de faux.
On annonce de nouvelles mesures. Non, mais, c'est, par exemple, ce que vous avez cité, Emmanuel, le chèque énergie qui va être dépensé d'ici la fin de l'année.
Vous dites que
ce sera en 2021, le chèque énergie. 580 millions.
Vous avez dit quelque chose de faux, de factuellement faux.
Et après, Emmanuel.
Et c'est pour ça que je me permets de vous arrêter. lorsque nous avons présenté la loi de finances rectificative pour tenir compte du confinement du mois d'avril et de la reprise épidémique. On a eu un réflexe de prudence qu'on a toujours eu. On a proposé au Parlement de voter des crédits pour faire face aux mesures d'urgence, des crédits conséquents. Et aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est que la croissance est plus forte que ce que nous prévoyons au moment de ce PLFR, plus forte encore que ce qui était imaginé il y a quelques semaines. Et parce qu'il y a plus de reprises, plus d'activités économiques, évidemment, le chômage partiel est moins sollicité.
Et à ce moment-là, il faut absolument dépenser cet argent.
Non, je vais au bout parce que c'est là que j'en viens à ce que vous avez dit qui n'est pas juste. Il y a moins de chômage partiel, moins de fonds de solidarité, c'est une bonne nouvelle parce que ça signifie que l'économie va mieux et que nous dépensons moins. Dans votre raisonnement, vous me dites, vous empruntez plus et après il faut le dépenser. Parce que vous faites comme si...
Et vous faites une sorte de cagnotte. Non, c'est un peu ça quand même. Vous l'avez un peu dit tout à l'heure.
Je vais aller au bout juste pour vous montrer pourquoi.
Rapidement,
je répète, vous avez
dit
quelque chose de fou. Vous dites, vous empruntez plus et après il faut le dépenser. Mais vous faites comme si on empruntait la totalité du déficit en début d'année. Ça n'est pas ça. Nous empruntons au fur et à mesure, chaque semaine. Nous émettons des obligations pour quelques milliards d'euros. Et quand nous ne dépensons pas l'argent, nous n'empruntons pas.
Alors à ce moment-là, je voudrais retourner un an encore en arrière. En 2020, fin 2020, vous avez 28 milliards de trop de financement et vous les reportez sur 2021. Vous
confondez la trésorerie et les ouvertures de crédit.
Oui,
c'est une autorisation de crédit,
mais
pas
une trésorerie. Le problème, je vais vous dire, monsieur le ministre, c'est que
vous confondez l'autorisation donnée par le Parlement au gouvernement
d'emprunter. Tout cet argent, nous ne l'avons pas.
Et le fait de l'emprunter,
tout cet argent, nous ne l'avons pas. Donc vous dites, finalement, nous avons meilleure fortune que ce que nous imaginions.
C'est une bonne nouvelle, félicitons-nous.
Et plutôt que de se dire, on ne va pas dépenser cet argent... finalement, on fait des chèques supplémentaires. Et c'est ça qui me gêne. Avoir des annonces en ce moment de 580 millions d'euros sur l'année 2021, c'est quelque chose
inhabituel. Que dites-vous aux ménages qui voient leur facture d'électricité augmenter 10%?
Peut-être qu'on a un problème de taxes aussi à un moment, parce que vous savez, vous nous dites que vous baissez énormément les impôts.
Ça n'est pas la question de la fiscalité.
Qu'on baisse énormément.
Comme moi, que c'est un problème de marché
mondial. Énormément les impôts, mais moi, quand je regarde, quand je regarde la loi de finances, les baisses d'impôts pour les ménages, on y reviendra sûrement tout à l'heure. On y reviendra tout à l'heure. Moi, je trouve que vous les surévaluez.
Allez, un tout petit mot d'Emmanuel Dutheil avant qu'on parle des baisses d'impôts.
Sur les baisses d'impôts, justement, ce qui est quand même important, il y a un point très positif dans ce budget, c'est que tout à l'heure, on disait qu'on était loin de la moyenne européenne sur les entreprises. C'est-à-dire que ce qui coûte très cher quand vous regardez cette année le budget, c'est la baisse progressive des impôts de production. Alors, c'est des impôts que les Français ne connaissent pas, mais c'est grosso modo, dès que vous commencez à produire en France, vous êtes taxé avant même d'avoir commencé à produire. Et il y a enfin une baisse aussi des impôts sur les sociétés. Est-ce que ça, vous attendez un retour sur investissement? Parce que ça n'a pas été conditionné.
Bien sûr, nous l'attendons et
Monsieur
nous le souhaitons.
Ministre, Olivier Dussopt.
Mais la baisse de l'impôt, du taux d'impôt sur les sociétés, ça n'est pas enfin. Nous le faisons depuis 2017 et nous passons progressivement depuis 2017 de 33 à 25%. C'est la principale baisse et nous ajoutons à cela les impôts de production. Au total, sur 5 ans, c'est une baisse d'impôt de 50 milliards d'euros. 25
mais
pour
c'est
les
pas le chiffrage vraiment ma question. Le chiffre
25 pour les entreprises et 25 pour les ménages.
La question c'est, qu'est-ce que vous attendez comme retour sur investissement?
Ce que nous attendons, c'est ce que nous avons déjà reçu et ce que nous continuons à recevoir. Depuis 2 ans, la France est le premier pays européen en termes d'attractivité pour les investissements étrangers. C'est un des pays qui a la plus forte croissance et plus encore après la crise. C'est un taux de chômage qui baisse et qui est d'ores et déjà revenu dès le mois de juillet à l'équivalent de ce que nous connaissions avant la crise Covid. Et donc, le développement des entreprises, leur installation, les relocalisations d'activités et les créations d'emplois, c'est aussi la contrepartie que nous obtenons de l'allègement de la fiscalité. Nous sommes encore très haut par rapport à la moyenne européenne, mais nous avons commencé à baisser. Pour les entreprises, c'est 25 milliards au total. Les ménages, c'est 25 milliards.
Donc 50 milliards au total.
Par la baisse de la taxe d'habitation et la baisse de l'impôt sur le revenu.
Et une telle trajectoire pourra se poursuivre une fois que le premier tour et le deuxième tour seront passés?
Nous avons.
Oui, il va falloir payer la note.
Je ne sais pas si nous serons en capacité de continuer à baisser aussi fortement les impôts. Par contre, ce que nous savons, c'est qu'on ne sort pas d'une crise en augmentant les impôts. Ceux qui ont essayé avant ont échoué avec une croissance atone et une défiance totale. Et nous n'augmenterons pas les impôts. Nous, ce que nous voulons, c'est de la croissance. Parce que la croissance, c'est de l'emploi, c'est de la richesse et donc c'est des recettes.
On fait une petite pause, on se retrouve dans un instant avec le ministre des Comptes Publics et avec Agnès Verdier-Molinier. On parlera justement de ces baisses d'impôts pour les ménages. À tout de suite.
18h-20h sur Europe 1, Punchline, Laurence Ferrari.
On se retrouve dans Punchline avec le ministre délégué aux Comptes Publics, Olivier Dussopt, et Agnès Verdier-Molinier. On parle évidemment de ce projet de budget 2022 qui a été présenté ce matin au Conseil des ministres. Les baisses des impôts pour les ménages, Agnès Verdier-Molinier, elles sont conséquentes, 50 milliards d'euros, dit Bruno Le Maire. Une partie pour les entreprises, une partie pour les ménages.
Bah écoutez, pour les entreprises, c'est sûr qu'il y a des baisses. Hein. Là, on ne le remet pas du tout en question. Et d'ailleurs, ces baisses, elles ont commencé bien avant ce quinquennat. Elles ont commencé sous François Hollande, avec le CICE, on s'en souvient, qui a été transformé en baisse de charges, avec le pacte de responsabilité, avec la baisse du taux d'impôt sur les sociétés. Donc tout ça a été très amorcé dans le précédent quinquennat. Et puis, il y a les 10 milliards supplémentaires de baisse de taxes sur la production. Pour moi, ce n'est pas du tout suffisant hein, parce que nos entreprises paient à peu près, même avec les baisses de taxes de prod qui sont prévues là, c'est de l'ordre de 140 milliards de plus d'impôts payés par nos entreprises tous les ans en moyenne par rapport aux autres entreprises de la zone euro hors France. Donc c'est un fardeau énorme fiscal et on peut dire aussi social hein, parce qu'il y a des cotisations sociales, il y a des taxes de production, il y a des impôts. Donc tout ça, ça reste gigantesque à porter pour nos entreprises. Et je déplore que le nouveau plan d'investissement, là, ce ne soit pas tout simplement plutôt un plan de baisse massive des impôts pour les entreprises. Mais bon, ça, on l'a vu, hein, on a beaucoup de mal. Hein, 10 milliards, c'est tout petit par rapport à ce problème des taxes de production. Sur les ménages... Là, je suis un peu plus étonnée par les chiffres qui sont donnés par le gouvernement parce que si on prend ne serait-ce que les chiffres clés qui ont été distribués ce matin du budget 2022, quand vous avez l'impôt sur le revenu des ménages, en exécution 2017, hein, ce qui est rentré dans les caisses, c'est 73 milliards. Et en 2022, ce qui est prévu, c'est 82,4 milliards d'euros. Donc, si vous voulez...
Ça ne veut pas dire que ça diminue.
Non, mais en réalité... En réalité
vous savez très bien.
Non, mais ça, ça suit le niveau d'évolution du PIB, mais il n'y a pas vraiment de baisse tangible.
Si, donc, pour les Français.
L'année dernière...
Votre réponse, pardon, monsieur le ministre.
La baisse d'impôt sur le revenu, nous l'avons votée pour 2020. C'est 5 milliards d'euros sur la première et la deuxième tranche. Et en moyenne, cela représente 302 euros par ménage concerné de baisse. Vous savez très bien, parce que vous connaissez parfaitement les chiffres, que vous comparez le chiffre de 2017 avec le chiffre de 2020... Alors que
de 2022.
De 2022, mieux encore, ça renforce mon argument. Alors vous savez que le montant total des revenus imposés a augmenté.
Oui, et, mais alors et que, justement, et non, on a fait tous ces calculs. Non, mais
vous savez
et on
surtout,
va les refaire pour 2022,
mais
dès qu'on
vous savez
pourra.
Surtout que si on n'avait pas baissé les impôts l'année dernière, ça n'est pas 82 milliards en 2022, mais 85 milliards qui auraient été prélevés. Et donc, quand vous doutez de la baisse de l'impôt sur les ménages, autour de 25 milliards d'euros, je ne vais pas faire le détail, mais
le problème, monsieur le ministre,
c'est 18
c'est
milliards
en réalité,
et l'impôt sur le revenu,
il faut regarder
c'est 5,
par
ça fait
rapport au revenu total des ménages. Et on le fera. Mais la difficulté, vous savez très bien que c'est, tout ça, c'est une matière mouvante. Et en général, quand on peut vraiment regarder les choses, malheureusement, les années sont passées
en
arrière.
Les choses sont peut-être mouvantes, mais vous avez 80% des ménages qui payent plus de taxes d'habitation.
Ce qu'on a déjà très bien regardé, c'est que sur les années antérieures, on ne voyait pas vraiment de baisse de la totalité des impôts directs sur les ménages. Quand on introduit notamment la CSG, la CRDS. Parce que là aussi, il y a un sujet. Moi, je trouve étonnant que votre gouvernement communique tout le temps sur l'impôt sur le revenu et la taxe d'habitation. Donc certes, il y a une baisse aussi de 16 et quelques milliards sur la taxe d'habitation. Mm-hmm. Mais le problème, c'est qu'il y a une énorme augmentation des recettes de CSG, CRDS.
Vous, pardonnez-moi, vous oubliez dans ce cas-là la baisse des cotisations.
Oui, mais justement,
rappelez-vous
vous
qu'elle
savez,
était supérieure à la hausse de la CSG.
Mais justement, on l'avait fait, ce calcul, et on avait 25 milliards de hausse des impôts directs. Et en face, on avait 24 milliards de baisse des cotisations.
Non, c'est un milliard ça compte.
Donc,
le
sujet maintenant, c'est de voir la totalité des impôts qui pèsent sur les ménages, et notamment des impôts directs.
Ça ne baisse pas.
Difficulté, c'est qu'on n'a pas encore les recettes de CSG, CRDS, parce qu'elles seront présentées pendant la loi de finances la loi de financement de la sécurité sociale, pardon, qui va être bientôt présentée. Et là, on aura des éléments complémentaires. Mais je trouve que quand on parle de fiscalité. Oui, mais vous voyez, quand vous parlez à un ménage et que vous lui dites « Oh, mais votre taxe d'habitation a baissé et votre impôt sur le revenu a baissé, mais si sa CSG a énormément augmenté et que sa taxe foncière a augmenté aussi et que sa TICPE a augmenté aussi encore dans les impôts indirects, là on a des niveaux de prélèvements qui ne sont pas différents.
Je vais répondre par des éléments très simples. Vous parlez de taxe d'habitation. 80% des ménages ne la payent plus. Ils le voient très bien qu'ils ne la payent plus. Vous parlez à côté de ça de taxes foncières, en sachant pertinemment que le niveau de la taxe foncière n'est pas décidé par l'État, mais par les collectivités locales. Et donc, il ne faut pas comparer des choses qui ne sont pas décidées.
Après, il y a des bases aussi qui évoluent avec l'accord du Parlement.
La deuxième chose, c'est sur la question de l'impôt sur le revenu. L'impôt sur le revenu a baissé 300 euros par ménage. Nous l'avons concentré sur la première et la deuxième tranche. Au final, avec ces deux seules mesures, la taxe d'habitation sur les résidences principales, et l'impôt sur le revenu, nous sommes déjà à 23 milliards et il faudrait
ajouter. Mais vous savez aussi, monsieur le ministre, que par le truchement du prélèvement à la source, on a imposé sur une année après l'année sur laquelle on aurait imposé, si on avait imposé normalement, et qu'il y a eu un effet aussi rebond des recettes. Un effet rebond des recettes de l'impôt sur,
argument contre argument.
De l'impôt sur le revenu, non, qui était non négligeable.
Je sais qu'avec Mme Verdier-Molinier, le verre est toujours à moitié plein et jamais à moitié vide.
Non, mais, c'est
mais
faux.
Mais c'est
faux.
Son rôle.
Je reconnais
dans nos retranchements.
Vous vous dites qu'on vous avait baissé les impôts.
Il y avait aussi une année blanche. Le constat, il est très simple.
Enfin, année blanche, on a quand même payé des impôts.
Le constat est très simple et vous l'avez partagé avec moi tout à l'heure. Les impôts, les baisses d'impôts que nous avons décidées arrivent à 50 milliards d'euros. Et la meilleure traduction, mais je comprends que c'est un chiffre macroéconomique, vous l'avez dit vous-même, c'est que le taux de prélèvement obligatoire dans ce pays va, pour la première fois depuis des années, baisser entre le début et la fin d'un quinquennat. Vous ne pouvez que vous en féliciter parce que c'est ce que vous attendez vous-même.
Mais pourquoi ? Parce que vous prenez Agnès par rapport à 2017 qui était le pic du pic. Mais 2017, vous avez aussi des responsabilités dans la gestion de l'année 2017. On ne peut pas dire, ah bah tiens...
Le budget avait été voté avant l'arrivée d'Emmanuel Macron.
Oui, mais justement, ça c'est aussi quelque chose qu'on peut reprocher à ce gouvernement. C'est d'avoir dit, bah tiens, je ne change rien à la loi de finances qui avait été votée. Alors que la plupart des gouvernements, quand ils arrivent aux manettes, ils disent, il faut baisser les impôts. Bah, il commence tout de suite. Baisser les dépenses. Bah, il commence tout de suite.
Pardonnez-moi,
là,
mais
on a attendu.
Il ne faut pas avoir la mémoire courte. Pendant l'été 2017, le gouvernement d'Emmanuel Macron a proposé un collectif budgétaire au Parlement avec des économies, avec des réformes, y compris des réformes difficiles à faire. Et le budget le déficit qui devait être à 3,2 ou 3,3%, soit au-delà des 3%, dans le budget tel qu'il avait été voté par le gouvernement précédent, a été ramené à 2,9.
Revenons à maintenant.
Ça veut dire qu'en 2017, le gouvernement a agi pour corriger le tir.
Pas tant que ça.
Et pour l'année
qui arrive, tellement sur les impôts.
Je peux vous assurer que si vous ne l'avez pas fait, vous le reprocherez encore plus vertement.
Moi, je pense que clairement, on peut trouver un peu plus d'une trentaine de milliards peut-être de baisse réelle d'impôts sur ce quinquennat. Après, il y a aussi un angle mort qui a été soulevé par le Haut Conseil des finances publiques qui dit, attention, on n'a pas comptabilisé toutes les créations d'emplois sur l'année 2021 et résultat, potentiellement, ça va faire des recettes en plus de cotisations, de CSG-CRDS et d'impôts sur le revenu. Et ça peut faire augmenter aussi mécaniquement le taux de prélèvement obligatoire sur l'année prochaine. Alors vous allez me dire non, parce que finalement, ça impacterait aussi...
Pourquoi, monsieur le ministre,
ce que le Haut Conseil des finances publiques nous dit, c'est que la masse salariale globale sera peut-être plus dynamique entre 2021 et 2022.
C'est-à-dire ?
Et si c'est le cas, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il y aura plus de création d'emplois. Okay. Et sans changer le taux de prélèvement, nous aurons alors plus de recettes, ce qui est une bonne chose. Mais s'il y a plus de richesses produites...
Ce n'est pas certain, ça peut aussi impacter le taux de prélèvement obligatoire.
S'il y a plus de richesses produites, vous conviendrez avec moi qu'il peut y avoir un peu plus de recettes fiscales sans que ça augmente le taux de prélèvement. Nous, ce qui nous importe, c'est d'alléger le poids de la fiscalité des prélèvements
sur la production de richesses. Que vous soyez calé sur une croissance à 4% qui soit réelle, que vous ayez sous-estimé justement la masse salariale et que vous ayez derrière des recettes supplémentaires et que ça fasse augmenter le taux de prélèvement obligatoire réellement appliqué aux Français en 2022.
Je suis convaincu que vous avez lu La Vie en entier. Et La Vie en entier dit à la fois que la masse salariale et donc les recettes de cotisation seront peut-être plus importantes que ce que nous avons prévu. Il dit aussi que la croissance sera peut-être plus importante que ce que nous avons prévu. Ce qui va permettre de répondre à vos inquiétudes pour l'année 2021 et 4% pour l'année 2022. Moi, si à la fin de l'année 2021 et à la fin de l'année 2022, le constat que l'on fait, c'est qu'il y a eu plus de croissance, il y a eu plus d'emplois, plus de production de richesses, et que cette production de richesses supplémentaire, sans augmenter les impôts, avec les taux qu'on connaît aujourd'hui, permet à l'État d'avoir un peu plus de recettes et d'amortir la dette contractée pour le Covid et de redresser ses finances publiques, ce sera plutôt des bonnes nouvelles.
Redresser les finances publiques, on n'y est pas. Hein. On est à plus de 56%, y compris crédit d'impôt, enfin toutes ces questions que vous connaissez par cœur, de dépenses publiques. On est dans des niveaux stratosphériques de dépenses. Alors, à aucun moment, votre gouvernement, pour l'instant, ne nous dit comment il va baisser la dépense. On nous fait tout le temps miroiter une potentielle réforme des retraites qui n'arrive pas, alors qu'on sait que c'est la mère de toutes les réformes qu'il faut absolument mener. À quel moment est-ce que votre gouvernement va prendre vraiment à bras le corps ce sujet d'un plan de désendettement, de le présenter aux Français, de l'expliquer, parce que demain, toutes vos baisses d'impôts, entre guillemets, comme elles sont complètement finalement financées par de la dette, elles deviendront factices.
Notre objectif, c'est la croissance avec les remèdes que vous proposez, c'est la garantie
merci
de tout.
Merci à tous les deux.
Non, absolument
merci
pas.
Merci, monsieur le ministre Olivier Dussopt.
C'est en baissant les impôts qu'on fait de la croissance.
Votre budget. Et merci Agnès Verdier.
Et en baissant les dépenses aussi.
Molinier qui vous a porté la critique. Merci à tous les deux pour ce débat passionnant dans Punchline. Merci à vous de votre fidélité. On se retrouve demain à 18h sur CNews et sur Europe 1 pour Punchline. D'ici là, bonne soirée sur Europe 1. C'est Stéphanie Loire qui vous attend pour musique.